Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Le grand oral des grandes gueules.
Nous sommes avec François Gémen.
Bonjour.
Bonjour, spécialiste des flux migratoires et chercheur dans le domaine du climat.
Absolument.
François, il y a une chose qui inquiète cet été, et c'est une expression qu'on entend de plus en plus, le fameux dôme de chaleur qui a frappé le Canada, qui semble-t-il installé sur une partie de l'Espagne. C'est quoi un dôme de chaleur?
C'est un phénomène météorologique qu'on connaît assez bien, c'est-à-dire quand une masse d'air chaud est piégée à basse pression. Et donc, ça crée effectivement des îlots de chaleur et des records de température. Ce qui est particulièrement alarmant avec le changement climatique, c'est que le changement climatique va exacerber ce phénomène qui existait déjà auparavant, mais qui fait qu'il atteint désormais des températures records comme celles qu'on a battues au Canada. Il faut se rendre
50
compte.
50 degrés au Canada.
C'est ça. Et c'est des records qui sont battus de 4 ou 5 degrés. Généralement, quand on bat un record de température, c'est quelques dixièmes ou centièmes de degrés. Là, on les bat par 4 ou 5 degrés. Et effectivement, c'est quelque chose qui touche aussi l'Europe.
Alors, avec ses conséquences, les incendies notamment?
Bien sûr. D'abord, il y a les incendies. On a vu que la petite ville de Lytton au Canada avait été complètement rasée par un incendie. On a vu également des gens qui mouraient, tout simplement. Il y a eu plus de 250 victimes au Canada. Il y a des impacts, évidemment, sur la végétation, sur les écosystèmes. Et effectivement, je dirais que l'impact premier, c'est l'impact sanitaire. Là, au Canada, on a eu de la chance que ça se produise dans une région peu peuplé sur un petit village de 200 habitants. Si ça s'était produit en ville, on peut s'attendre à ce que les conséquences sanitaires aient été bien, bien pires.
L'Andalousie est frappée. Alors, il fait chaud l'été en Andalousie, mais là, il fait particulièrement chaud. Est-ce que la France est protégée de ce dôme de chaleur?
Absolument pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce type de phénomène de dôme de chaleur également en France, dans les campagnes et dans les villes. Et bien entendu, comme on sait que la température est supérieure de quelques degrés en ville par rapport aux campagnes, ça fait des dégâts encore plus importants quand ça se produit en ville.
C'est directement lié au dérèglement climatique, au réchauffement de la planète?
C'est ça. Un des effets principaux du changement climatique, c'est qu'il va aggraver, exacerber toute une série de phénomènes qu'on connaissait par le passé. Des dômes de chaleur, des inondations, des sécheresses, tout ça va être aggravé, va prendre des proportions qu'on ne connaissait pas auparavant.
Donc c'est plus de tempêtes?
C'est plus de tempêtes.
C'est plus de périodes de forte chaleur, mais aussi de périodes de froid parfois.
Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça qu'on parle parfois de dérèglement climatique.
C'est exagéré en fait.
C'est important de parler de moyenne à l'échelle mondiale parce qu'effectivement, il peut y avoir à certains moments des records de température vers le haut, mais également des records de froid à certains autres endroits.
Alors, Jérôme.
Et notamment comme conséquence des migrants dits climatiques qui va d'année en année avoir comme conséquence suite à vos propos.
Effectivement, aujourd'hui, les dégradations de l'environnement sont un des principaux facteurs de migration et de déplacement de populations à travers le monde.
Alors, quelle population pour aller où?
Alors, en 2020, par exemple, 30,7 millions de personnes ont été déplacées par des tempêtes, des sécheresses, des inondations, c'est-à-dire des catastrophes comme celles dont on parlait, qui vont être aggravées par le changement climatique. La région du monde la plus touchée, c'est l'Asie du Sud et du Sud-Est, c'est-à-dire la région du monde qui est la plus peuplée. L'Afrique subsaharienne est aussi beaucoup touchée.
Donc il va falloir se poser la question, que fait-on de ces gens-là? Parce qu'on ne pourra pas les empêcher de fuir les catastrophes, la sécheresse, la tempête.
Surtout quand on sait à quel point les dossiers de migration et d'asile sont des dossiers qui sont des sources de divisions profondes dans nos sociétés, dans nos gouvernements. Et je crains malheureusement qu'on n'anticipe pas encore véritablement l'ampleur de ce type de migration.
Pourquoi on n'anticipe pas? Parce que justement c'est un problème, c'est un peu un tabou.
Parce qu'on préfère mettre le problème sous le tapis ou le confier à d'autres et qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à quelque part attaquer de front cette question des migrations et à voir comment on peut essayer d'organiser les choses.
Barbara Lefebvre.
Oui, ce dérèglement climatique, qui est finalement un terme plus approprié me semble-t-il que réchauffement climatique, mais ce dérèglement climatique lié à la dégradation de l'environnement, ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. C'est l'action de l'homme. Donc, fameuse anthropocène. Donc, effectivement, le fait que sur certains continents, on ait à une déforestation de masse, pourquoi faire? Pas seulement pour produire du bois, pour nos meubles en kit, en aggloméré, dégoûtant, là, qui se cassent au bout de deux minutes, mais aussi pour l'agriculture qui est nécessaire pour nourrir les milliards et les milliards d'êtres humains qui ne cessent de peupler cette planète. Donc, on voit bien que la solution au dérèglement climatique, c'est d'abord une régulation, pas seulement de la démographie mondiale, mais aussi une régulation de notre type de consommation parce que il n'y a pas que l'agriculture productiviste ici, il y a aussi l'agriculture productiviste au Brésil, l'agriculture productiviste qui se développe en silence en Afrique et en Asie du Sud-Est, vous l'avez expliqué. Donc on voit bien qu'en réalité, c'est l'homme qui est au centre de cette problématique. Et c'est pour ça que ça me dérange toujours le côté les réfugiés climatiques ou le dérèglement climatique. On a l'impression qu'il se passe quelque chose dans le climat, mais que l'homme n'y est pour rien, qu'il subit.
Nous en portons la première responsabilité, bien entendu. La déforestation que vous venez d'évoquer représente à peu près un cinquième des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et nous en portons aussi en France une responsabilité, bien entendu, parce qu'on déboise pour fabriquer des meubles que nous consommons, pour l'agriculture et donc des produits agricoles que nous consommons aussi en France. Et d'où l'importance aussi d'une forme de gouvernance mondiale. On critique beaucoup les négociations internationales sur le climat, mais il est certain que sans discuter avec les autres, on n'y arrivera pas tout seul.
J'ai lu le bouquin de l'humanité est en péril de Frédéric Varga, on en a parlé. Est-ce que vous diriez aussi que là, on arrive à un moment où on s'essouffle et qu'aucune solution n'arrive parce qu'il n'y a aucune prise de conscience sur une humanité qui est en péril?
Mon sentiment, c'est quand même qu'on a franchi un palier important et qu'il y a maintenant une vraie prise de conscience, y compris parce que les gens voient autour d'eux ces impacts du dérèglement climatique. La difficulté du moment, je crois, c'est qu'on est à un moment charnière où on doit maintenant faire des choix collectif. Et on doit se dire, tiens, comment est-ce qu'on va vouloir vivre? Quel choix de consommation et de production est-ce qu'on va poser? Et ça, forcément, en démocratie, ça suscite des débats, ça suscite des controverses, ça suscite parfois de l'inaction par peur de trancher dans le vif. C'est vraiment le moment charnière auquel on se trouve maintenant, le moment où le climat est entré de plein pied en démocratie.
Oui, parce que la prise de conscience trottinette, ça va pas aller bien loin. C'est-à-dire la prise de conscience en disant je vais changer le monde en trottinette, non, mais ou en faisant un documentaire, je ne sais pas de citation pour ensuite monter les marches à Cannes. C'est pas ça qui va changer. Ce qui change, c'est le comportement individuel. Moi, je comprends les accords internationaux, etc. Mais enfin, comme dirait l'autre, commence déjà par toi-même avant de demander aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc, si déjà il pouvait y avoir des comportements individuels qui changent en termes de surconsommation, ça serait quand même très très aidant. En particulier pour nous, dans les pays très développés et riches.
Il y a les comportements individuels qui représentent à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que c'est important, c'est nécessaire, mais c'est évidemment pas suffisant. Ça veut dire qu'on ne pourra pas résoudre le problème du changement climatique uniquement en transformant les comportements individuels. Il faut aussi des choix collectifs posés par les gouvernements et par les entreprises. Et toute la difficulté, je crois, c'est de mettre en adéquation nos choix individuels avec nos choix politiques et collectifs.
Alors, bien sûr, faire un monde décarboné, bon, on y va petit à petit. Après, l'électricité, le tout électrique, ça pose aussi des problèmes, parce qu'il faudra bien quand même cette électricité. Mm-hmm. Il faut du nucléaire, pas nucléaire. Et puis, il y a la croissance verte. Moi, j'entends toujours ce terme de croissance verte. Je la vois pas, moi, la croissance verte. Je vois, par exemple, l'éolien, c'est surtout l'État qui finance, mais c'est pas rentable pour l'instant, l'éolien. S'il n'y avait pas les subventions publiques, il n'y aurait pas d'éolien. Alors, la croissance verte, c'est un peu un mot magique.
C'est un peu oxymorique, un peu comme une petite gueule.
Voilà, mais c'est quoi la croissance verte?
C'est l'idée qu'il serait possible de découpler notre croissance économique de la croissance de nos émissions de gaz à effet de serre. Or, historiquement, le développement de la France et tous les pays industrialisés s'est fait à partir de l'exploitation d'énergies fossiles. Et donc, on a toujours observé une très forte corrélation entre nos émissions et la croissance économique. Est-ce qu'il est possible de maintenir une croissance économique soutenue tout en baissant nos émissions? C'est une des grandes questions du moment.
Pour l'instant, personne ne l'a démontré.
Pour l'instant, on l'a démontré, je dirais, en Scandinavie ou sur des petit moment assez localisé, mais au niveau mondial, il n'y a pas de démonstration probante.
Oui, par exemple, il y a énormément de progrès, ne serait-ce que dans le gaz décarboné, la méthanisation. Il y a des entreprises, y compris des entreprises françaises, qui travaillent énormément à la méthanisation, qui va permettre de produire du gaz décarboné.
Les Français n'en veulent pas à côté de chez eux les méthanisateurs. C'est ça qu'on dit.
Oui, mais il y a des industriels qui passent des accords avec ces entreprises, et on est aujourd'hui à 1% du gaz français qui est du gaz décarboné. Ben, il faut que ça augmente.
Charles,
J'ai été très frappé, moi, par ce qui s'est passé au Canada avec ce village qui a été brûlé en quelques heures, en fait. On a l'impression, et les gens ont eu juste le temps de partir, prendre quelques affaires et se mettre sur les routes. Parce que, pour le coup, là, on avait vraiment quelque chose qui ressemblait à un film catastrophe, etc. Mmh. Est-ce que, selon vous, ce genre d'événement est quelque chose qui pourrait se, non seulement se reproduire, mais se massifier, exister à plusieurs endroits de la planète, ou est-ce que c'était un cas isolé et qui s'explique par je ne sais quelle considération locale?
Non, très clairement, on va assister de plus en plus souvent à ce type d'événements et ils vont devenir de plus en plus violents. Ça veut dire que ce qu'on considère encore aujourd'hui comme étant quelque chose d'exceptionnel va devenir demain la nouvelle normalité. Il faut comprendre qu'on a enclenché un mécanisme qui est irréversible, oui, et auquel il va falloir s'adapter. Et donc, on a parfois souvent un peu ce discours alarmiste en disant il nous reste 10 ans pour agir ou il faut sauver le climat. La réalité, c'est qu'on a déjà engagé le changement climatique, qu'il faut évidemment essayer de tout faire pour réduire au maximum ses impacts, mais qu'il va également falloir s'adapter à cette nouvelle normalité. Et ça, je pense qu'on n'en a pas encore vraiment conscience.
Oui, vous dites que c'est irréversible. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse aujourd'hui, on ne pourra pas échapper à ce réchauffement de la planète.
Durant votre vivant, vous n'allez pas retrouver les températures que nous connaissions il y a 20 ou 30 ans. La température ne va pas baisser, le niveau des océans ne va pas baisser, il n'y aura pas de vaccin contre le changement climatique, il n'y aura pas de retour à la normale, donc, et ça, il faut l'accepter.
Donc ça veut dire, parce que ça, c'est un discours qu'on ne dit pas suffisamment, on pense que peut-être qu'on arrivera à changer les choses et à revenir comme avant. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui adapter notre société à cet état de fait.
C'est-à-dire
et ça, moi je trouve qu'il y a très peu de discours politiques là-dessus.
Vous
notamment
avez absolument
là,
raison.
Là, il y a la présidentielle qui démarre, ça sera un bon débat, je trouve. Comment on fait pour vivre tous ensemble avec nos besoins, notre niveau de vie également, et en s'adaptant à cet état de fait.
Il faut évidemment, avant tout, essayer de réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre, on l'a rappelé, mais il faut aussi s'adapter à cette nouvelle normalité. Et ce n'est pas antinomique.
Quoi, par exemple,
souvent, on a dit, s'adapter, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pas du tout. Plus on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, moins les efforts d'adaptation seront...
Alors, c'est quoi s'adapter, par exemple?
Alors, s'adapter, ça veut dire, par exemple, en France, effectuer un retrait du trait de côte à certains endroits. Ça veut dire qu'il va falloir revoir certains plans d'urbanisme avec certains immeubles sur les littoraux.
Donc, c'est Jérôme qui a acheté sa villa en bord de mer, à Perpignan. Non, mais sérieusement...
Alors, j'ai pas les plans de la villa précisée au bord de Jérôme.
Non, mais retrait de côte...
Bien sûr.
Vous entendez pas des élus dire, attention...
C'est la question que j'allais...
Pourquoi on dit pas ça? Parce qu'il y a l'immobilier, parce que ça marche.
Parce qu'il y a l'immobilier, la pression des assurances, la pression des promoteurs immobiliers. Il y a plein de choses qui expliquent que nous sommes encore un peu aveugles. On appelle ça en psychiatrie l'apraxie. Le fait de savoir, exactement, mais de ne pas agir.
Exactement.
Ouais. D'ailleurs, vous me devancez un petit peu, mais je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, pas du tout. Ce n'est pas mon objectif. Mais là, par rapport aux élus, parce que moi, j'ai été un ancien élu, comme vous le savez, par rapport à cette politique, sans porter un jugement, quels vont être enfin les moyens de pression pour que cesse cette aggravation du laisser-aller et justement, comme vous dites si bien, avoir un moment d'une action forte?
Je pense qu'il faut absolument se donner les moyens de réfléchir à ça un peu rationnellement. On voit bien aujourd'hui à quel point les controverses et les polémiques s'enflamment. Dès qu'on prend une décision qui est un peu contraignante, on voit tout de suite un peu l'énorme polémique. On parle de Khmer Vert, de gens qui vont tuer l'économie. Je pense qu'il faut qu'on ait un discours absolument plus rationnel et plus posé pour cela. Et se dire, voilà, nous sommes face à un choix qu'il va falloir poser. Lequel est-ce qu'on fait? Et c'est un choix qui va engager les générations futures. On a beaucoup de mal à penser le long terme en politique, et souvent, les politiques sont obnubilés par la nécessité de présenter des résultats pour la prochaine élection. On a un vrai décalage entre l'échelle de temps climatique et l'échelle de temps politique qui est problématique aujourd'hui.
Mais parce que c'est vécu souvent comme une punition.
C'est vécu souvent comme une punition, c'est vécu comme une contrainte.
On m'empêche de faire ça, on me contraint, et on n'est pas sûr en plus que cette contrainte, cet empêchement est vraiment utile à la planète.
Il ne faut pas se le cacher, il y aura un certain nombre de contraintes. La question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut collectivement accepter comme niveau de contrainte qui paraît raisonnable.
Ce que vous avez expliqué, c'est que les effets positifs de la contrainte, on ne les verra pas. Et comme les gens ont quand même du mal à se projeter plus loin que leur propre vie, voire pas plus loin que la vie de leurs enfants, si on leur
c'est
explique
normal,
que
d'ailleurs.
Ce sera pour dans 10 générations qu'on verra les effets des efforts que nous faisons aujourd'hui, peut-être que les gens ont du mal à le voir.
Cette contrainte,
pas 10 générations, mais on va dire 30 ou 40.
Ce problème, c'est cette contrainte, elle pèse un peu toujours sur les mêmes. D'où la révolte d'ailleurs des Gilets jaunes. C'est une contrainte d'une taxe carbone à payer qui provoque cette colère sociale.
C'est un truc essentiel. Pendant longtemps, on a cru que les mesures contre le changement climatique allaient pouvoir être des mesures un peu techniques, décidées par des experts un peu en chambre. Et on n'a pas du tout pris en compte les questions d'équité et les questions de justice sociale. Et ça, c'est un aspect essentiel. Ça sera un des points saillants du prochain rapport du GIEC, qui sera publié l'an prochain d'ailleurs. Comment on articule les questions de justice sociale avec les questions de lutte contre le changement climatique?
On l'a un peu oublié. Ce qui fait que parfois, on va dire, bah, attendez, les écolos, c'est pour les bourgeois des villes qui ont les moyens d'habiter dans une grande ville où effectivement, il n'y a plus de voitures, mais il y a aussi des transports en commun, tout va bien, on fait tout à pied, on va travailler en boulot, en vélo, donc la vie est belle. Et puis pour les gueux, bah, c'est la bagnole, c'est les contraintes, c'est les taxes, etc. Il y a eu ça, hein, quand même, pendant longtemps. Il faut changer peut-être.
Il faut se rendre compte. Rappelle-toi, que... les Gauloises et le diesel, hein, c'était un ministre de ce gouvernement qui a sorti ça, excusez-moi.
Et ce que vous dites, est valable au niveau interne en France, mais valable aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que très souvent, les solutions qu'on envisage pour lutter contre le changement climatique, c'est des solutions qu'on va s'appliquer uniquement à soi-même, mais qui vont avoir des effets dévastateurs chez les plus pauvres. Le cas des voitures électriques, on peut penser ce qu'on veut des voitures électriques, mais qu'est-ce qui va se passer quand le parc automobile serait électrique? Ça veut dire que les voitures à moteur thermique seront envoyées en Afrique et en Asie. Et le climat se fiche de savoir si les émissions viennent de France ou du Botswana.
Est-ce qu'on est des bons élèves en France,
je dirais moyen, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance en France à se retrancher derrière les choix qui ont été faits en matière d'énergie nucléaire dans les années 50 ou 60 pour se donner une bonne conscience et se dire qu'on n'a plus d'efforts à faire parce qu'on l'a fait avec l'énergie nucléaire. La réalité, c'est qu'on est quand même dans le milieu de la classe, on n'est pas les pires, mais on n'est pas les meilleurs non plus. Et surtout, il y a plein d'émissions françaises qui ne sont pas comptées dans les totaux nationaux.
Lesquelles ?
Par exemple, toutes les émissions qui sont produites par des entreprises françaises à l'étranger, Lafarge-Holcim, numéro 1 mondial du ciment, Renault-Nissan, numéro 1 mondial de l'automobile, Carrefour, numéro 2, numéro 3 de la grande distribution, les banques françaises, BNP, la Société Générale, toutes ces émissions qui sont produites en dehors du territoire français ne sont pas comptées comme émissions françaises. Et pourtant, on a évidemment une responsabilité dans ces entreprises qui sont largement contrôlées ou par les Français ou par l'État. Et je ne parle même pas de Total.
Et le nucléaire, le nucléaire, alors, c'est bien ou c'est pas bien? C'est écologique ou c'est pas écologique, finalement?
L'énergie nucléaire émet évidemment beaucoup moins de gaz à effet de serre que le gaz, le charbon ou le pétrole. La difficulté à imaginer le nucléaire comme recette miracle, c'est qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a encore 13% de l'humanité qui n'a pas accès à l'électricité, que le nucléaire, ça demande des investissements lourds de long terme, ça demande un réseau d'électricité développé et ça demande une forte centralisation et planification. Et ça, c'est pas disponible dans plein de pays en développement et dans plein de pays émergents. Donc le nucléaire, ça reste souvent une solution accessible aux pays industrialisés.
On peut
discuter de savoir s'il faut le faire ou pas. Mais imaginez qu'on va pouvoir faire des centrales nucléaires partout dans le monde, ça c'est une illusion.
Vous avez évoqué rapidement les littoraux. La France est quand même la deuxième zone maritime au monde, derrière les États-Unis. Comment se fait-il que la France ne soit pas justement leader sur la question de la préservation de ses propres littoraux et de sa propre zone maritime, de ses propres fonds marins, alors que c'est aussi un enjeu et on en parle très peu. Pourtant, il paraît qu'on a une ministre de la mer.
Absolument.
Vous l'entendez beaucoup, la ministre de la mer, sur ces questions.
Et on parle très peu aussi de la vulnérabilité des territoires d'outre-mer. Est-ce que vous savez, par exemple, que les émissions de Nouvelle-Calédonie sont comptées indépendamment des émissions de la France? Si on comptait la Nouvelle-Calédonie à part, ça serait le troisième émetteur mondial par habitant.
Donc c'est peut-être pour vous, c'est l'enjeu numéro un de cette campagne présidentielle qui s'annonce.
Je pense que c'est une vraie matrice politique aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart des sujets dont on va vraiment discuter, l'émigration, le développement, l'agriculture, la paix et la sécurité, tous ces sujets vont être transformés par le changement climatique. Oui. C'est pour ça que c'est vraiment une sorte de matrice.
Est-ce qu'à moyen terme, on va en fait connaître des cauchemars comme on les voit dans les films ou pas?
Des films catastrophes.
En réalité, je pense qu'on a tort. On a tort d'en parler au futur. C'est déjà une réalité dans plein d'endroits du monde, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud ou du Sud-Est. Et on est frappé par des images comme celle du dôme de chaleur et de Lytton en feu. Mais il y a plein d'impacts plus progressifs du changement climatique qui ne produisent pas des images spectaculaires qu'on ne voit pas. Par exemple, la dégradation des sols qui prive des millions de gens de revenus liés à l'agriculture, la hausse du niveau de la mer qui se fait peu à peu et qui érode les littoraux. Ça ne produit pas des images de télévision spectaculaires, mais c'est déjà à l'œuvre aujourd'hui.
C'est parce que Charles veut savoir s'il peut y avoir un dôme de chaleur sur Dole.
Ouais. Sur le Jura.
C'est possible. Je ne peux pas garantir à Charles.
Déjà, il est chaud. T'es tranquille parce que le littoral est assez loin du Jura.
Figure-toi, c'est ce à quoi j'étais en train de penser.
On ne peut pas garantir que Dole serait épargné par le Dole.
Vous avez raison que ça va être un sujet.
Oui, aucune région peut être.
Aucune région peut être.
C'est quand même le Nord.
Même la Sibérie se réchauffe.
Non. Lytton est à la même latitude que le Pas-de-Calais, donc on ne peut pas exclure que ça arrive dans le Nord.
Il ne fait jamais chaud en Bretagne.
En fait, on s'en soucie lorsqu'il y a des inondations, des images spectaculaires.
On s'en soucie effectivement quand on voit un événement et on a encore volontiers tendance à croire que c'est un événement exceptionnel et qu'il va y avoir un retour à la normale.
On s'en soucie quand ça arrive chez nous. C'est ça, malheureusement.
C'est la grande difficulté de la lutte contre le changement climatique. Oui. Est-ce qu'on est capable d'entreprendre aujourd'hui et ici des actions qui vont avoir des bénéfices ailleurs
et plus tard? Ça, c'est une bonne question. Merci, François Gémen, d'être venu nous raconter tout cela à la table des grandes gueules.